Mais non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Salut, c'est Dany Baillet à Saint-Sevé. Vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé Charles-Tursan et nous vous proposons une demi-heure de détente et de plaisir au travers de cette émission que nous allons appeler Loup Gourmandas. Loup Gourmandas, pourquoi ? Parce que le suffixe as que vous connaissez amène toutes les subtilités de la langue gasconne. Par exemple, une can, un chien, une cagnon, un mignon petit chien. Une cagnotte, un petit chien, une cagnasse, mais on se passe de commentaires. Bonjour à tous, c'est Le Gourmandas sur Radio MDM 93.8 Saint-Sevé Chalosse-Tursan, 100.1 Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est mon envie personnelle de venger un peu tous les gros, les joufflus et les obèses à travers quelque chose qui s'appelle l'opulence ségrégative, ou quand l'opulence était l'expression la plus sûre de la beauté. Alors pourquoi parler de l'opulence ? Parce que pour parler de l'opulence, bien sûr, il faut parler de Peter Bruegel, ce peintre appelé Bruegel l'Ancien, du XVIe siècle, qui est né en 1525. Pourquoi ? Mais parce qu'il a beaucoup peint le monde paysan, et à travers sa misère, bien sûr, un petit peu de l'époque, mais surtout à travers la ripaille, à travers les us et coutumes, et à travers ce qui se passait déjà à l'époque quelques jours simplement dans l'année, c'était la distribution de l'alcool gratuitement 3 ou 4 fois par an, et la possibilité de braver tous les interdits. Alors je suis tombé amoureux de ces tableaux un jour au musée de Flandre à Paris, et ces tableaux qui font ressortir la joie, toute la liesse, la bonne humeur des kermesses flamandes, où je me retrouve personnellement beaucoup. Et dans ces tableaux, ce qui est très fort, c'est à travers ces personnages un peu rabougris, un peu racornis, et on rentre directement dans toutes les scènes. On est vraiment dans sa scène, dans la vie. Or, pourquoi ce coup de cœur ? Bien, un jour, j'avais 18 ans et j'étais subjugué par la lumière de ces tableaux, de ces personnages, un rien grossier, bien sûr, au trait, mais très expressif, un peu à la Botero, Botero qui s'est inspiré de lui pour ses personnages très ronds, de nos jours, du moins du siècle dernier. Alors, j'étais saisi par cette image qui m'a fait aujourd'hui passer le pas. Chaque tableau montre un fait prodigieusement osé, et qui fait le monde des gros est aussi le monde des beaux et des belles personnes, car il s'agit aussi, et heureusement, des femmes. Imaginons les canons de la beauté, aujourd'hui déterminés par le diktat de la maigreur, l'index pointé sur les maigres, et surtout, bien sûr, naturellement, sur les gros ou contre les gros. Avec Bruegel, de fait, les scènes nous montrent des différences totalement inouïes entre les maigres, hideux, souffreteux, maladifs, perturbés ou en attente de nourriture. Les gros, par contre, eux, sont les beaux, les enviés, les repus de la vie, ceux dont l'opulence est vraiment source de caste et de ségrégation. Ainsi a-t-il appelé toute une collection de tableaux l'opulence ségrégative. Leur vie n'est qu'oisiveté et gourmandise, leur visage est rond, adipeux, poupin, léger et laisse ressortir tous les bonheurs de la chair. Femmes et enfants sont aussi logés, heureusement, à la même enseigne et pour appuyer le tout, même le chien est gras et beau. Il symbolise l'aisance, le pouvoir, la gourmandise, ce qui pour eux, bien sûr, comme le libertinage à l'époque, était simplement un loisir pour les chanceux, naturellement. Leur position, souvent assise autour d'une table de victuailles, c'est le cas dans le tableau du repas de noces, fait apparaître tous les bienfaits de l'embonpoint et les portes ouvertes par le statut de bienheureux, car bien nourri. Rappelez-vous de notre dernier petit voyage, la référence à l'autolan, l'oubenarit, le bien nourri. Les gros mangent à souhait jusqu'à plus faim. Ils en laissent même dans leur assiette, signe supérieur de l'opulence ségrégative, et laissent éclater leur joie. On voit le personnel s'affairer à nourrir encore et toujours les mêmes, jusqu'au paroxysme et à la chute. Après les repas, les convives s'embrassent, s'enlacent et on sent que tout est permis. Sur chaque tableau, les hommes et les femmes très enrobés crèvent la lumière. Même leur chien est beau aussi et il est hors norme. Sous le trait féroce du peintre, c'est toute ma vie qui s'étale avec tous ces passages envoûtants. Les gros sont beaux, ils sont vénérés, ils sont jalousés. Et Bruegel, le jeune, son fils, disait bien plus tard que, dans un proverbe flamand très connu, que les femmes sortent avec les maigres, mais rentrent avec les gros. Est-ce vrai? Ça, c'est à prouver. Et les maigres, alors, me direz-vous, ils sont présentés ternes, voûtés, voire bossus, le teint blafard, les traits tirés, le visage amaigri, émacié, le regard perdu, cherchant quelques victuailles providentielles. Ils se scrutent les uns les autres dans l'espoir de trouver quelques miettes à gratter. Leur chien est toujours aussi maigre et son poil rebroussé incite à la prudence car il est signe d'agressivité et d'attaque possible à tout instant. Leurs habits sont déchirés, ternis, loqueteux et les opposent radicalement à l'abondance, à l'élégance et à l'opulence des riches qui sont de gras bourgeois dépeints par Brel. Oui, j'ai quelque part voulu venger avec cette sublime rencontre avec le peintre tous les gros, les joufflus, les obèses dont parle l'ami Georges, qui sont les persécutés de notre monde. Reprenant mon propre parcours, enfant j'étais un enfant maigre et souffreteux, et notre vie ressemblait un peu à la campagne, à du Bruegel. Mon souvenir me renvoie des images comme celle de mon grand-père qui faisait du pain une à deux fois par semaine dans le four de la ferme et tenait ce pain rangé dans un linge blanc au bout de la table dans un tiroir prévu à cet effet que lui seul avait possibilité d'ouvrir. Ce pain, source principale de victuailles, servait à tremper, à noyer la soupe. Et nous recevions de mon grand-père une grande tartine coupée qui mouillait le jus, la soupe chaude, qui devenait un plat fabuleux que nous mangeons en silence. Cette distribution avec circonspection symbolisait une famille de maigres qui partageaient le quotidien, car le partage était la seule voie. En face se trouvait le propriétaire de notre métairie qui, lui, recevait force, chapon, oie grasse, poulet, cochon gras pour festoyer. Nous imaginions sa vie reclus dans sa propriété et bien sûr, ça n'était pas sans difficulté qu'il nous fallait revenir à notre quotidien. Les photos d'époque rejoignent totalement ces scènes de Bruegel. À travers le repas de noces, à travers les scènes des kermesses flamandes, durant laquelle on voit une scène un peu naïve où un ivrogne et jeté dans le bouge à cochon. L'ivogne aura eu le tort de venir quémander parmi les gros, parmi les riches, qui festoient quelques bribes de nourriture. Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé, Châlons-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es ma petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, délai, on se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, on se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien, que tout le monde trouvait si vilain. Ouf, toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose, peut-être était-ce par osmose, tellement qu'il buvait plus de paroles. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Enfin, faire avec ce qu'on a. La sale gueule, nous on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée de lait, se voit sans délai, délai. La beauté cachée de lait, se voit sans délai, délai.
Alors, me direz-vous, pourquoi parler de Bruegel, l'ancien ce peintre hollandais du XVIe siècle ? Eh bien, car il est le témoin toujours vivant de notre comportement et qu'il ose vanter la gourmandise, et donc les gens comme moi, les gourmandasses. Alors, en dehors du fait que la moitié de la planète crie famine et que le reste cherche désespérément à maigrir à tout prix, mais quelle est donc la place des gourmands qui sont exclus par leur rondeur des canons de la beauté et de l'esthétique? Ici, Bruegel, comme Botero, doivent nous aider à prendre conscience qu'il vaut mieux faire envie que pitié, sauf que cette donnée, avec le temps, s'est considérablement effritée. Quel mannequin porterait d'ailleurs aujourd'hui la robe avec des rondeurs? Mais si, me direz-vous, et quelques-uns parmi les grands s'y sont essayés avec un succès timide, notamment Jean-Paul Gaultier. Tout gourmand comme moi doit se méfier de deux types de personnes, les femmes et les cuisiniers maigres. Les premières, car elles sont souvent, et souffrance oblige, elles avec un petit pet de travers, comme on dirait dans le pays. Les seconds, chefs et gourmands, ne peuvent être maigres, hormis les nouveaux parvenus et nouveaux pédants de fourneaux que les guides amènent à placer en premier dans l'édifice architectural comme édifice principal. Pour nous, les ronds, les joufflus, les obèses, l'édifice principal, c'est l'édifice gustatif. Pour moi, paysan et proche de la terre et des bois, le goût a tout mon respect et ma considération. Ainsi, chaque apport décoratif à un plat, pour moi, doit servir à améliorer le goût et non seulement à décorer mon assiette. Nous ne sommes pas tout à fait en Asie, même si leur cuisine me ravit beaucoup. Nous, les Gascons, avons notre lot de tirades qui expriment au mieux la beauté des corps enrobés. Ainsi, en gascon, ma grand-mère disait « tout kehebent », ce qui veut dire « tout remplit le ventre ». Vous voyez cette belle expression des gros. Ma grand-mère disait, avec quelques réminiscences d'une époque où manger, bien sûr, était sacré, d'abord parce que c'était un plaisir pour manger à sa faim vraiment assez rare. Pour Noël, par exemple, certaines expressions qui nous rappellent tout le fonctionnement du monde paysan de l'époque. À travers le feu de Noël et autour du feu de Noël, l'uhaglio de Nadao, haglio de Nadao, la tripe au pau, la poule au tuping, le porc au salin, haglio de Nadao, d'un kadouman matin. Ça veut dire feu de Noël, le boudin suspendu, la poule dans le toupin, le porc au saloir, et feu de Noël jusqu'à demain matin. Autre expression des ronds, aket guayart. Aket guayart, ça veut dire celui qui faisait plaisir à voir, dont le visage était toujours enrobé d'un sourire. Et qui est plus souriant que les ronds, que les gros? Aket qu'un bec cap, qu'un cap kumutuk. Ce qui signifie, il a une belle tête, une tête comme une souche. C'était un signe royal à l'époque. Et bien sûr, plus proche de moi, qu'un broy pamparote. Le pamparote, c'était l'estomac qui dépasse un peu de la ceinture et qui retombe par-dessus. Et pour les radins, bien sûr, ceux qui ne voulaient pas grossir ou partager avec les autres, car il y a un petit peu de ça aussi. Ouhouhou, l'ou que valiev que mourte, l'ou que prestev que un grand malao. Celui qui donnait, il est mort, et celui qui prêtait est très malade. De façon absolument incroyable, même les paysans maigres connaissaient des périodes d'abondance et de surconsommation. La preuve avec cette tirade de ma voisine portant des prunes à son curé. « Et monsieur curé, qui me porte des prunes, à nous, c'est le porc, c'est n'importe quoi. Monsieur le curé, je vous porte des prunes parce que chez nous, les cochons n'en veulent plus. Vous voyez, tout le monde a eu son abondance à un moment donné. » Et en mariage où ma grand-mère me racontait que l'enfant, face à sa mère, se met à pleurer. « Et sous casse, ne me bouge pas mes minya, mais le peignetin les potes. » Mais que des hate, ce qui veut dire, mais qu'est-ce que tu as à pleurer? Mais j'en peux plus, je peux plus manger. Mais remplis-toi les poches, mais non, c'est déjà fait. Oui, quelque part, les gourmands, les gourmandasses, ont un message à faire passer. Ceux de montrer du doigt ceux qui, par gourmandise, sont eux-mêmes, portant l'art culinaire à son point culminant, au détachement, pour être ivres de joie jusqu'à l'euphorie. Aimons la chair douce, les plats enrobés, les viandes entrelardées. Aimons la gourmandise, car c'est elle qui commence quand on n'a plus faim. Brillat Savarin, rappelons-le quand même, inventeur d'un fromage numéro 1 mondial à 83% de matière grasse, disait que les optimistes et les gourmands vivent plus longtemps. Nous savons aussi qu'après les choses délicieuses, Jean de La Fontaine disait qu'on adore les parties de jambes en l'air. Jean de La Fontaine, ce coquin écrivain de fables. Déformation, la gastronomie n'est-elle pas l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur, disait Théodore Zeldin. Je me souviens même, image simple mais naïve, d'un ami qui s'appelait Mimosa, et à qui on avait demandé, « Mais Mimosa, mais comme la fleur ?» Et il a eu cette délicieuse réponse, « Non, comme les œufs. » N'est-ce pas tout simplement magnifique? Allez, mes amis, je dois vous laisser. J'ai un plat noble à préparer et qui n'est ni McDonald's, ni mon cumiqué, je vous rassure non plus, qui en sont les créateurs. Ite missa est. À bientôt sur nos ondes.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Faudrait avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les rotuleuses à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et tonsuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi. Criant à l'imposteur, aux traîtres, aux papelards, elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit, que faites-vous malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression. On me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit, je ne conduis guère plus mal que si j'avais la foi.